Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Une grande partie de nos activités quotidiennes consiste à parler et à communiquer avec les autres.
Mais que dit la Bible au sujet de la communication et de l'usage de la langue?
Nous le découvrons à travers cette série de discussions. Yann est en compagnie de notre invité Étienne et je leur cède tout de suite la parole.
Bonjour Étienne et merci d'être de retour parmi nous.
Bonjour Yann et bonjour à tous. Je voudrais commencer aujourd'hui avec une question. Chers amis, lorsque vous parlez à vos frères et sœurs en Christ, quels sont les sujets de conversation qui reviennent le plus fréquemment? De quoi parlez-vous avec vos amis? Voici le thème de notre discussion aujourd'hui. Nos conversations sont-elles enrichissantes et bénéfiques? Mais réécoutons tout d'abord un texte biblique. Il s'agit de Jacques au chapitre 3, les versets 9 à 12. Donnons la parole à Sandra.
Nous nous en servons pour louer le Seigneur notre Père, et nous nous en servons aussi pour maudire les hommes, pourtant créés pour être ceux qui lui ressemblent. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Avez-vous déjà vu de l'eau douce et de l'eau salée jaillir d'une même source par la même ouverture? Un figuier, mes frères, peut-il porter des olives ou une vigne des figues? Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce.
Nous avons appris que nos paroles peuvent faire du bien comme elles peuvent faire beaucoup de mal. Nous devons donc faire attention aux mots que nous utilisons et à notre attitude envers les autres.
Oui, Jacques le rappelle dans ce texte, avec la même langue, nous pouvons bénir ou maudire.
Et encore de nos jours, certaines personnes prononcent des paroles de malédiction contre ceux qu'elles détestent.
Oui, et ce verset nous montre qu'un tel comportement est entièrement incompatible avec la foi chrétienne. Nous recevons de Dieu la bénédiction pour bénir les autres en retour, et non pas pour les maudire. Mais voici que les paroles de Jacques nous amènent vers une réflexion plus large encore sur la nature de nos paroles.
Expliquez-vous davantage, s'il vous plaît.
Oui, ce texte semble viser tous ceux qui louent Dieu ouvertement et qui, aussitôt après, parlent mal aux autres ou médisent sur les autres. Imaginez-vous dans la situation suivante. Vous participez à un culte où tous les chrétiens chantent d'un seul cœur des cantiques d'adoration et de reconnaissance. Tout semble si merveilleux. Cependant, après le culte, vous entendez des conversations où certains critiquent le message du pasteur, d'autres se plaignent de petits détails qu'ils n'ont pas aimés dans l'organisation du culte, certains se nourrissent des derniers commérages et aggravent des rumeurs, et d'autres encore rient de plaisanteries vulgaires. Qu'en pensez-vous?
Je pense que Jacques encouragerait ces chrétiens à se remettre en question.
Oui, bien sûr. Et j'espère que tout véritable chrétien voit dans cette caricature que les choses ne devraient pas être ainsi. Et pourtant, malheureusement, de telles conversations peuvent s'entendre. Alors qu'il est, comme je l'ai déjà souligné, incohérent de louer Dieu pour aussitôt après être blessant ou dire du mal des uns et des autres.
Pensez-vous à quelques textes bibliques illustrant vos paroles?
Oui. En voici un, écrit par l'apôtre Paul dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 4, le verset 29, puis au chapitre 5, le verset 4.
Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté. Qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Ainsi elles feront du bien à ceux qui vous entendent. Ce ne sont pas des sujets de conversation pour ceux qui appartiennent à Dieu. Pas plus que les propos grossiers ou stupides et les plaisanteries équivoques. C'est inconvenant. Exprimez plutôt votre reconnaissance envers Dieu.
Il est évident qu'il faut éviter toute blague ou plaisanterie vulgaire et insultante. Mais selon vous, qu'est-ce qu'une parole malsaine?
Paul nous encourage dans la suite du texte à parler aux autres dans le but de les édifier et de leur faire connaître la grâce de Dieu. Édifier, c'est avoir une influence morale sur les autres. Les paroles malsaines sont, au contraire, des paroles qui détruisent. Elles n'édifient pas. L'amour de Dieu et sa grâce en sont absents. Les paroles malsaines peuvent donc être des commérages, des critiques excessives, non fondées, des jugements hâtifs, ainsi que des insultes et des calomnies.
Merci, Étienne. Mais ne risquons-nous pas de donner l'impression que le chrétien n'a plus le droit de parler des sujets ordinaires, ni de s'amuser ou de plaisanter?
Le chrétien a le droit de s'amuser. Il a le droit de parler de ce qui l'intéresse ou le touche de près. Toutefois, en se divertissant, il doit rester courtois et veiller à ne pas offenser. Nous pouvons éprouver le besoin de parler des personnes qui nous ont fait de la peine ou du mal. Toutefois, les textes bibliques nous encouragent à le faire avec sagesse et discrétion. Pourquoi ? Parce que tout homme et toute femme ont été créés à l'image de Dieu et que Dieu aime sa création. Ne cherchons donc pas à détruire la réputation de ceux qui nous ont offensés, mais suivons plutôt l'exemple de Jésus.
Mais si certains sujets de conversation sont à éviter, quels sont ceux que nous devons rechercher?
Tous les sujets qui contribuent à l'édification. Nous devons donc rechercher les conversations qui vont encourager nos amis à faire des progrès dans leur foi. Nous devons saisir des occasions pour aider nos voisins à rencontrer Dieu. Nous devons aspirer à instruire, à réconforter, à avoir des paroles encourageantes, des paroles qui éclairent.
Et Paul parle aussi des paroles de reconnaissance.
Oui, nous pouvons comprendre cela de deux façons. Tout d'abord, nos conversations doivent refléter notre reconnaissance envers Dieu. Les gens doivent voir Dieu à l'œuvre dans nos vies, car notre désir doit être que beaucoup rencontrent Dieu et que la foi de ses enfants soit fortifiée. Et ensuite, nous pouvons aussi exprimer notre reconnaissance envers tous ceux qui nous font du bien et qui viennent au secours de nos amis. Un tel soutien ne pourra que les encourager à persévérer dans leur marche avec Dieu. Il est bien supérieur aux reproches et aux critiques qui détruisent.
Enfin, Paul déclare qu'il faut savoir édifier les autres selon leurs besoins.
Oui, Paul l'a compris. Nous sommes tous différents et de ce fait, nous devons répondre aux besoins de chacun selon sa propre sensibilité et son propre vécu. Une parole qui fait beaucoup de bien à une personne n'en fera pas forcément à une autre. Usons donc de discernement et de sagesse. Écoutons l'autre pour bien le comprendre et savoir quoi lui dire. Et enfin, je voudrais conclure cette discussion avec la leçon la plus importante.
Quelle est-elle ?
Jésus doit tenir une place importante dans notre cœur et nos conversations. Écoutons une autre citation de l'apôtre Paul. Dans sa lettre aux Colossiens, au chapitre 3, le verset 16.
Que la parole du Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse. Qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu.
Comment nos conversations peuvent-elles contribuer à l'édification de nos frères et sœurs ? En leur parlant de celui qui nous fait tant de bien, Jésus. Comment sa parole peut-elle habiter au milieu de nous? En la gardant dans nos cœurs et en la méditant, en saisissant des occasions pour parler de Jésus dans nos conversations, en racontant ce qu'il a fait pour nous. En agissant ainsi, la vie des autres sera enrichie.
Merci Étienne. Vous serez de retour la prochaine fois et nous parlerons alors du témoignage du chrétien auprès de ceux et celles qui ne connaissent pas Jésus.
C'est bien cela, Yann. Alors, je dis à tous au revoir et à la prochaine.
Nous remercions Étienne pour sa participation aujourd'hui. Nous allons à présent passer à notre courte méditation biblique. Nous nous pencherons sur la première épître de Jean. Sandra va nous lire au chapitre 2, les versets 6 à 8. Ensuite, elle cédera la parole à Claude, qui nous fera part de ses réflexions.
Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme le Christ lui-même a vécu. Mes chers amis, ce n'est pas un nouveau commandement que je vous écris. Il s'agit d'un commandement ancien que vous avez reçu dès le commencement. Et ce commandement ancien, c'est le message que vous avez entendu. Mais en même temps, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Sa nouveauté se manifeste vraiment en Christ et en vous. Car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable brille déjà.
Quelle est la place de la loi de Dieu dans la vie du chrétien? Car ne vit-il pas, après tout, sous la grâce de Dieu? Le texte que nous venons d'écouter nous apporte quelques pistes de réflexion et nous nous y attarderons pendant plusieurs émissions. Rappelons-le, L'apôtre Jean écrivit son épître à des chrétiens troublés par les paroles de certains faux enseignants. Ces faux enseignants affirmaient qu'il fallait avoir une connaissance secrète et mystique de Jésus-Christ, et ils vivaient dans l'immoralité. Pour eux, la loi de Dieu ne devait plus avoir de place dans leur vie. Jean, quant à lui, parle de l'importance des commandements de Dieu, et il évoque notamment un commandement ancien dont les croyants avaient entendu parler dès leur conversion. Puis il évoque un commandement nouveau. Est-il possible de savoir de quel commandement il s'agit? Car il ne les cite pas explicitement. À l'époque de Jean, le peuple juif avait pris l'habitude de résumer ainsi toute la loi de Moïse. Aimez Dieu et aimez son prochain. Ainsi, toute la loi se résume en un seul mot, aimer. La loi entière de Moïse a été donnée pour aider le peuple de Dieu à comprendre comment aimer Dieu et comment aimer son prochain. Voici donc l'ancien commandement, aimer Dieu et aimer son prochain. Mais quel est le nouveau commandement dont il est question dans ce texte? L'apôtre Jean le cite explicitement dans son évangile au chapitre 13, versets 34 à 35. Il s'agit des paroles de Jésus. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Ainsi, l'ancien commandement et le nouveau ne se contredisent pas, car tous deux se résument en un seul mot, aimer. Alors, comment définir cet amour? Sous la loi de Moïse, des listes de règlements donnaient une idée de ce que l'amour devait être. Toutefois, en ce qui concerne le nouveau commandement, cet amour triomphe à travers la vie et la mort de Jésus-Christ. Car cet amour révèle dans toute sa force et sa puissance celui donné dans l'Ancien Testament. Il nous oriente avec force sur notre façon d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. Et en tant que chrétiens, nous devons nous appuyer sur l'Ancien et le Nouveau Commandement. Quel défi! Mais nous en parlerons plus la prochaine fois.
Merci Claude pour ces paroles édifiantes. Cette prière de l'apôtre Paul me semble bien à propos. Que le Seigneur vous remplisse jusqu'à en déborder d'amour les uns pour les autres et envers tous les hommes.
Merci Hélène. Sur ce, nous terminons notre émission. Je vous dis au revoir et à la prochaine.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.